Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Si ma mémoire est bonne. Nous avons quitté Agatha Christie en gros à la veille de la Seconde Guerre mondiale, qui, comme pour tous les Anglais, a été une épreuve redoutable pour Agatha Christie. Mais prise dans son travail, je dirais presque son sacerdoce d'écrivain de romans policiers, elle continue à produire, bon an mal an, un à deux romans policiers, des nouvelles, parfois pour les journaux, des pièces de théâtre.
Cette fille.
Non, pas même aperçue.
Colonel Melchett. Vous allez bien?
Voici Madame Bansi et la redoutable Miss Marple. Oh. Vous me coupez l'herbe sous le pied.
Bonjour, monsieur le commissaire. Voilà qui vous dépeint parfaitement, Jane. Redoutable. Je ne savais pas que vous vous connaissiez.
Oh, si, nous sommes de vieilles connaissances. J'ai toujours soutenu que Miss Marple possédait une sorte d'intuition judiciaire, devenue avec le temps une sorte de génie.
Oh, colonel.
Le résultat, me dit-elle, d'une vie passée, observer les us et coutumes des gens de son village.
Eh bien, on y est le témoin de beaucoup de mal, j'en ai peur. Mais si je possède quelque intuition, puis-je en faire usage pour suggérer que ma présence ici vous est inconfortable? C'est la raison de tous ces compliments, n'est-ce pas?
Il m'est venu à l'esprit, effectivement, qu'il n'était pas exclu qu'une fois encore, vous veniez nous damer le pion.
Absurde, mon cher. Cette affaire a créé quelques confusions. Delis a demandé à Jane de venir, enfin, uniquement pour avoir une compagnie, enfin, être entre femmes. Elle semble prendre les choses avec calme, et en pareil cas, il faut s'attendre à tout, n'est-ce pas?
Au grand ciel.
Sans jamais parler d'elle-même, Agatha Christie, parfois, au détour de ses œuvres, s'est quand même dévoilée. Et je prends comme exemple son roman Le Vallon, où une des héroïnes est sculptrice. Bon, de sculptrice à écrivain, peut-être on peut faire le rapprochement. Et voici comment cette femme, dans le roman, parle de son métier. On sculpte parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que le besoin de sculpter est en vous, parce qu'un démon vous habite qui vous harcèlera jusqu'à ce que vous lui ayez donné satisfaction. jusqu'à ce que vous soyez délivré de l'œuvre que vous portez. Et peut-être dans ces quelques lignes se trouve finalement toute l'explication du personnage d'Agatha Christie, de la femme qui était Agatha Christie, qui, je le répète, a toujours refusé de se confier. Elle a dicté des mémoires soigneusement filtrées pour être tranquille, mais elle n'a jamais révélé le fond de sa pensée. Peut-être n'était-ce pas forcément une chose importante, enfin du moins, elle ne le considérait pas comme une chose importante. Nous voici donc à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Les romans continuent à apparaître, toujours avec autant de succès. Les succès sociaux se multiplient également. Citons pour mémoire en 1968, Max Malohan devient Lord, il est anobli par la reine. Agatha Christie devient automatiquement Lady Malohan. On remarquera que c'est son mari qui a été anobli pour ses travaux d'archéologue. Cela dit, Agatha Christie ne pouvait pas en rester là et en 1971, sa très gracieuse majesté Élisabeth II l'a faite dame commandeur de l'Empire. On peut se dire que la petite Agatha est arrivée au sommet de la gloire. D'autant plus que le cinéma continue à prendre la relève. Des succès à l'écran se succèdent. Et j'en arrive à penser, peut-être ai-je tort, je n'en sais rien, que certains téléspectateurs connaissent à peu près tous les livres d'Agatha Christie sans en avoir jamais lu une ligne, ce qui est quand même extraordinaire. Citons aussi parfois les personnages détournés. Je pense à la série française Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, vous avez peut-être vu, avec des personnages inspirés par Hercule Poirot et Hastings. Je pense aussi à deux films, d'après deux personnages qui n'ont pas fait une grande carrière chez Agatha Christie, mais qui ont eu du succès en France et qui étaient joués par Catherine Froh et André Dussolier. Revenons, si vous le voulez bien, à Agatha Christie. Je vous propose maintenant d'écouter un des personnages récurrents de Agatha Christie, Miss Marple. Or, Miss Marple, c'est une vieille fille qui habite un petit village perdu et qui, sans quitter son village, résout les énigmes les plus difficiles à comprendre. Et voici donc le début d'une aventure de Miss Marple, Death by Drowning, mort par noyade.
Death by Drowning. Sir Henry Clithering, ex-commissioner of Scotland Yard, was staying with his friend the Bantrys at their place near the little village of St. Mary Mead. On Saturday morning, coming down to breakfast at the pleasant, guestly hour of 10:15, he almost collided with his hostess, Mrs. Bantry, in the doorway of the breakfast room. She was rushing from the room, evidently in a condition of some excitement and distress. Colonel Bantry was sitting at the table, his face rather redder than usual. "Morning, Clithering," he said. "Nice day. Help yourself." Sir Henry obeyed. As he took his seat, a plate of kidneys and bacon in front of him, his host went on, "Dolly's a bit upset this morning. Yes, I rather thought so, said Henry mildly. He wondered a little. His hostess was of a placid disposition, little given to moods or excitements. As far as Sir Henry knew, she felt keenly on one subject only, gardening.
C'est donc le début d'une nouvelle d'Agatha Christie, mort par noyade. Et ça se passe au petit village de Sainte-Marie-Mère. Sir Henry Clithering, ancien commissaire de Scotland Yard, était avec ses amis, les Bentries, dans leur maison près du petit village de Sainte-Marie-Mère. Un dimanche matin, en descendant pour le petit déjeuner à l'heure agréable pour un invité de 10h15, il faillit se heurter à son hôtesse, Mrs. Bentry, dans la porte de la salle à manger. Elle sortait en courant de la pièce, visiblement dans une condition d'excitement et de détresse. Le colonel Bentry était assis à la table. Bonjour, Clithering. Servez-vous. Sir Henry obéit. Alors qu'il prenait place, un plat de rognons et de bacon devant lui, son hôte continua. Ah, Dal est un peu perturbé ce matin. Oui, j'ai cru le voir, dit Sir Henry. Il était un peu étonné. Son hôtesse était d'un tempérament placide, peu enclinte aux excitations et aux mouvements d'humeur. Aussi loin que Sir Henry se souvenait, elle n'était passionnée que par un seul sujet, le jardinage. C'est une ouverture typique de nouvelles avec Miss Marple, un petit village, des gens qui s'occupent de jardinage et des énigmes à résoudre toutes plus compliquées les unes que les autres, bien évidemment. Revenons-en à Agatha Christie. Je vous ai rappelé tout à l'heure l'énorme succès de sa pièce « La souricière ». Parmi les films qui ont été tirés de ses œuvres, même s'ils ont tenté les plus grands comédiens, ils n'ont pas toujours été à la hauteur de leur sujet. Mais je voudrais en citer un quand même, parce que Hollywood avait fait les choses en grand. Ce film s'appelle « Le miroir se brisa ». C'est une enquête de Miss Marple, avec, excusez du peu, comme star Elizabeth Taylor, Kim Novak, Rockinson et quelques autres, et surtout une des plus belles Miss Marple du cinéma, Angela Lansbury. On pourrait citer aussi un film qui a eu un succès assez grand, un film de Billy Wilder, qui s'appelle Témoin à charge, avec comme interprète Marlène Dietrich, Charlton et le grand séducteur de l'époque, Tyrone Power. On dit que Billy Wilder était un peu vexé parce que Agatha Christie ne lui avait pas communiqué ce qu'elle pensait du film. Voici ce qu'elle lui a écrit. « J'ai aimé votre film. Je me suis même régalé de le voir. Une chose qui ne m'était jamais encore arrivée à la vision d'un film tiré d'un de mes livres. Désolé de ne pas vous l'avoir fait savoir plus tôt. » On peut se poser la question, est-ce qu'Agatha Christie était sincère en écrivant ce petit mot à Billy Wilder? Elle avait, de la même façon, elle avait envoyé des fleurs à une interprète inattendue de Miss Marple, Margaret Rutherford, alors que on sait par ailleurs qu'elle n'appréciait pas du tout ni le tempérament, ni le physique de l'artiste. Alors, maintenant, parmi les grandes, on va dire, les interprètes connues de Miss Marple, je voudrais rappeler celle qui a tourné énormément de films de la série Les Aventures de Miss Marple pour la télévision, Joan Hickson, qui était évidemment une actrice britannique. Et je vous propose une première pause musicale. Thank you. Je voudrais vous lire un extrait significatif d'une des nouvelles d'Agatha Christie, tirée des enquêtes d'Hercule Poirot, tout simplement parce que Agatha Christie adore ces introductions un peu, disons, coup de dé. Ça s'appelle « Une étrange disparition ». C'est Hastings qui parle. Nous avions, Poirot et moi, invité notre vieil ami l'inspecteur Japp à prendre le thé. Assis au salon autour de la table basse, nous attendions sa venue d'un instant à l'autre. Poirot venait de redisposer avec soin les tasses et les soucoupes que notre logeuse avait l'habitude de jeter littéralement sur la table. Le spectacle de la théière en métal lui avait arraché un profond soupir d'exaspération et il l'avait lustré avec un mouchoir de soie. L'eau frémissait dans la bouilloire et une petite casserole émaillée contenait un chocolat épais et plus conforme au goût de Poirot que notre thé qu'il appelait votre pisse d'âne national. Deux petits coups secs retentirent en bas à la porte d'entrée et quelques instants plus tard, Japp nous rejoignait de son pas alerte. « J'espère que je ne suis pas en retard, dit-il en nous saluant. Je bavardais avec Miller qui est sur l'affaire d'Avenheim. » Je dressai l'oreille. Depuis 3 jours, les journaux ne parlaient plus que de l'étrange disparition de Mr. d'Avenheim, l'associé principal de d'Avenheim and Salmon, les banquiers et financiers bien connus. Il avait quitté son domicile le samedi précédent et depuis on ne l'avait plus revu. Je brûlais d'arracher à Japp quelques détails intéressants. J'aurais cru, remarquai-je, qu'il était pratiquement impossible à l'heure actuelle de disparaître. Poirot déplaça d'un huitième de centimètre une assiette de tartines beurrées. Soyez précis, mon ami. Dit-il d'un ton peu amène. « Qu'entendez-vous par disparaître ? À quel type de disparition vous référez-vous ? » « Les disparitions sont donc classées ou étiquetées ? » demandai-je en riant. Japp sourit, amusé lui aussi. Les sourcils froncés, Poirot nous adressa un sourire sévère. « Mais bien sûr, il existe 3 catégories, dont la première la plus courante se range les disparitions volontaires. Dans la seconde, les cas d'amnésie dont on est... buse beaucoup, peu fréquent. Il arrive quand même de temps à autre qu'il y en ait d'authentiques. La troisième comprend les assassinats, après lesquels on parvient plus ou moins bien à se débarrasser du corps. Ces 3 types de disparitions sont-ils, d'après vous, tous irréalisables ? En pratique, oui, à mon avis, si vous perdiez la mémoire, il existe quelqu'un sûrement pour vous reconnaître. En particulier dans le cas d'un homme aussi connu que d'Avenheim. Ensuite, un corps ne se volatilise pas. Tôt ou tard, il réapparaît au grand jour et ressurgit de l'endroit où on l'avait enterré, de la malle où on l'avait caché. Le meurtre est découvert. De la même façon, l'employé qui a pris la fuite ou le locataire qui n'a pas payé son loyer ne peuvent qu'être rattrapés. Mon bon ami, dit Poirot, vous commettez une erreur. Vous perdez de vue qu'un homme qui a décidé de faire disparaître un autre homme ou de se débarrasser au sens figuré de lui-même, pourrait être précisément cette mécanique si rare, un homme méthodique. Il pourrait apporter à son projet de l'intelligence, du talent, une attention minutieuse dans le calcul du moindre détail. Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi il ne parviendrait pas à tromper la police. La police peut-être, mais pas vous, je suppose, dit Japp. « Cet homme-là, il ne vous la ferait pas, hein, monsieur Poirot ?» Poirot fit pour ça avec une évidente maladresse de jouer la carte de la modestie. « Du tout, moi aussi, je me tromperai, pourquoi pas ?» Il est vrai cependant que ma démarche consiste à aborder ce genre de problème en privilégiant la science exacte, la précision mathématique. démarche qui, hélas, semble peu répandue dans les nouvelles générations de détectives. Le danger, c'est d'attribuer à tous les détails une importance démesurée. La plupart d'entre eux sont insignifiants. Seuls, un ou deux sont essentiels. Ce sont le cerveau et ses petites cellules grises qui comptent. Les sens s'égarent. La vérité, on doit la chercher à l'intérieur, non à l'extérieur. Vous ne voulez tout de même pas dire, Monsieur Poirot, que vous entreprendriez de résoudre une énigme sans bouger de votre fauteuil. Mais si, vous m'avez parfaitement compris. À condition que je dispose de tous les faits, je me considère comme un expert en analyse. Jap se frappa la cuisse. Je veux bien être pendu si je ne vous prends pas en mots. Je vous barrerai un billet de 5 livres que d'ici une semaine, vous n'aurez pas mis la main, ou plus exactement que vous ne pourrez pas me dire où se trouve Davenheim, qu'il soit mort ou vivant. Poirot réfléchit. Soit, mon bon ami. Je relève le défi. Le sport, c'est votre passion à vous, les Anglais. Et c'est ainsi que Poirot, sans bouger de son fauteuil, va résoudre l'énigme, bien entendu, en temps voulu, de une étrange disparition. Nous allons revenir, si vous le voulez bien, à Agatha Christie qui, bon, ce début des années 50 et jusqu'au moment de son décès, va occuper la première place dans un domaine où personne n'ose l'affronter vraiment pour la primauté, à savoir le roman policier. Je voudrais vous proposer d'écouter un des comédiens français les plus extraordinaires qu'on ait eu depuis longtemps. D'ailleurs, d'origine à moitié anglaise, d'où le souci qu'il prend de demander que son prénom soit prononcé à l'anglaise, je veux parler de Michael Lonsdale. Je vous demande d'écouter Michael Lonsdale dans le début d'une nouvelle d'Agatha Christie, Astarté.
Le sanctuaire d'Astarté. Et maintenant, révérend Pender, qu'allez-vous nous raconter ? Le vieil ecclésiastique sourit. J'ai vécu dans des lieux paisibles, déclara-t-il. Je n'ai pas assisté à beaucoup d'événements sortant de l'ordinaire. Mais une fois cependant, dans ma jeunesse, il m'est arrivé une bien étrange et tragique aventure. Ah ! Fit Joyce Lemprière en matière d'encouragement. Je ne l'ai jamais oublié, poursuivit-il. Cela m'avait fait une profonde impression à l'époque et il me suffit d'un léger effort de mémoire pour raviver l'angoisse et l'horreur de ce moment terrible où j'ai vu un homme frappé à mort par un organisme non mortel. « Vous me donnez la chair de poule, Pender, » dit Sir Henry. « J'en ai eu moi aussi la chair de poule, » répliqua Pender. « Depuis, je ne me suis jamais plus moqué de ceux qui utilisent le mot « atmosphère ». Ça existe. Il y a des lieux chargés, saturés d'influences bonnes ou mauvaises, qui nous font sentir leur pouvoir. Les Mélèzes, c'est une maison qui porte malheur, remarqua Miss Marple. Le vieux Monsieur Smithers a perdu toute sa fortune et a été obligé de la quitter. Les Carslake lui ont succédé, Johnny Carslake s'est cassé la jambe dans l'escalier et Mrs. Carslake a dû partir dans le midi de la France pour raison de santé. Et maintenant, ce sont les Burden qui y sont et j'ai entendu dire que M. Burden avait dû se faire opérer presque immédiatement. « À mon sens, il s'agit surtout de superstition », déclara M. Pederick.
D'entendre Michael Ansal lisant le début de la nouvelle de Agatha Christie, Le Sanctuaire d'Astarté, une enquête, comme vous avez pu l'entendre, de Miss Marple. En 1976, au fête de la gloire, Agatha Christie meurt, elle a 86 ans. Son mari, Max Mallowan, se remarie un an plus tard. On a dit que depuis plusieurs années déjà, il avait une maîtresse plus ou moins attitrée. Et il n'en profitera pas longtemps, il va mourir en 1978, 2 ans après le décès de sa première épouse, Agatha Christie. Je voudrais, pour conclure, laisser la parole à la fille d'Agatha Christie, Rosalind. Voici ce qu'elle disait de sa mère. On me demande souvent pourquoi son œuvre reste si populaire. Il me semble que c'est avant tout parce qu'elle savait raconter une histoire. Ses livres sont courts. Vous voulez sans cesse connaître la suite et vous ne pouvez pas les lâcher. Ma mère était chrétienne, croyait au combat entre le bien et le mal. Elle pensait que les assassins devaient être arrêtés et punis et désirait plus que tout ne pas voir souffrir les innocents. Certes, elle écrivait des histoires avec des meurtres, mais elle ne supportait pas la violence. Et toutes ces histoires possèdent une part importante de moralité. En vérité, je crois qu'elle écrivait pour divertir les gens. Alors je vous suggère, la prochaine fois vous verrez programmé à la télévision sur l'une des innombrables chaînes que tout le monde a maintenant à sa disposition, chaque fois que vous verrez les aventures d'Hercule Poirot ou les aventures de Miss Marple ou alors une œuvre, un film tiré d'une œuvre d'Agatha Christie, je vous propose de ne pas oublier cette phrase de sa fille. Elle écrivait pour divertir les gens. Alors, je vous souhaite un bon divertissement, de bons divertissements, et je vous remercie de m'avoir écouté.
Radio Grand Ciel.